Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes qui s'affrontent chaque après-midi au service de votre culture G. On peut parler pour eux de déconfinement à la carte. Puisqu'en effet, à part mon inébranlable complice Eva Rock, que je salue d'ailleurs, bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et votre serviteur, qui sommes de retour en studio depuis lundi, les autres membres de l'équipe, eux, ont eu une dérogation pour revenir ou pas, en mode tranquillou bilou, no stress, vamos a trabajar ou vamos a la playa, selon l'humeur de nos vedettes. Qu'il ne faut donc pas trop bousculer, Eva.
Bande de bâtards.
Bah oui, on sera quand même, content de les retrouver dans quelques instants.
Sûr.
Avant cela, saluons notre invitée du jour, une animatrice qu'on aime beaucoup, Eva, spécialisée dans l'enfance et qui chaque jour, dans la maison des maternelles sur France 5, nous donne des conseils pour être de meilleurs parents. Des parents qui, par exemple, ne seraient pas à bout psychologiquement après 64 jours de confinement. Car je rappelle que beaucoup d'enfants n'ayant pas pu reprendre l'école, beaucoup de parents sont toujours techniquement confinés avec eux. Des parents aimants, bien sûr, ce n'est pas la question, mais qui sont quand même souvent à deux doigts de leur dire
« Je vais te défoncer la tête, tonton ! Je vais te massacrer ! Je te tuerai, espèce d'enfoiré !»
Pour nous sauver, il y a heureusement Agathe Le Caron. Bonjour.
Bonjour Mathieu, mais je ne vais pas vous sauver, je vous le dis tout de suite, parce que je ne peux plus les saquer non plus. Donc désolé, mais là, il ne faut pas compter sur moi. Moi, j'abdique, les gars, c'est fini.
Eh bien, c'était ma question, Agathe. Je me demandais si, en tant que professionnelle de l'enfance, vous aviez mieux surmonté le confinement que d'autres.
Tout.
Non, pas du tout. Ça
pas
a été compliqué.
Tout.
Vous avez deux enfants à la maison, assez petits.
Voilà, j'ai deux enfants de 4 et 6 ans, donc, et en plus deux garçons. Donc non, je les aime, mais je ne peux plus les saquer. Donc voilà. Donc, je ne peux pas vous aider. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir. Mais vous restez quand même avec nous, Agathe. On va parler de la maison des maternelles sur France 5 tous les jours à 9h. Et vous allez nous raconter aussi ce confinement compliqué. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier est avec nous en duplex du Sud-Ouest, où il est le correspondant d'Europe 1. Irréprochable sur le plan journalistique, il l'est un peu moins sur le plan vestimentaire, comme il nous l'avait avoué lui-même sans complexe la semaine dernière. Une révélation terrible qui, vous allez voir, avait profondément choqué Nicolas Caro, notre dandy littéraire.
J'ai une passion pour les crocs qui ne m'ont pas quitté depuis le début du confinement.
Oh mon Dieu.
Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Avec les crocs aux pieds, hein, toujours, je vous le garantis.
Vous avez vraiment vos crocs pour nous parler?
Oui, là oui, à l'instant où je vous parle, oui. Je vous rassure, des fois dans la journée, quand je sors, je change de chaussures.
Oui, ça,
mais
ça
là,
nous
pour l'instant, au moment où je vous parle, ça me donne de la confiance, du confort, je porte des crocs.
Envoyez-moi une petite photo.
Mais il l'a envoyé déjà.
Ah bon, je l'ai déjà envoyé à Eva, j'étais sûr que ça allait la faire craquer.
Je la mettrai sur les réseaux sociaux. Un chèque de 1200 euros signé Donald Trump, c'est ce qu'a reçu une habitante de votre région. Et a priori, c'est pas une blague, Stéphane.
Absolument pas. C'est totalement insolite. Elle a cru elle-même, cette jeune bordelaise, à un canular, mais vous verrez, c'est tout à fait réel.
Votre rivale, Stéphane, ne sait même pas à quoi ressemble une paire de crocs. Elle est l'élégance faite femme, notre vétérinaire Farah Kestri. Bonjour Farah.
Bonjour, bonjour à tous. L'élégance, c'est pas pour ce matin.
Ah, non, vous aussi, vous n'êtes pas dans une tenue très glamour?
Ah non. Nous, comme on a une dérogation à la maison, on prend nos aises.
Vous êtes en pyjama?
Non, pas exactement, mais je suis pieds nus quand même.
Ah, ça c'est bien.
Ça peut être même sexy. Bon, bref, on a lu des articles dans la presse là-dessus. Farah, désormais, pour traquer le coronavirus, certains pays font appel à des chiens renifleurs de Covid. Comment sont-ils dressés? Est-ce que ça marche? Va-t-on en voir chez nous? Vous avez enquêté.
Oui, absolument. Et c'est vrai que ça pourrait être une super stratégie parce qu'avec les tests actuels, c'est simplement, ils sont destinés pour repérer les personnes qui ont des symptômes du Covid. Et surtout, on va les utiliser pour tester les personnes qui sont en contact et les isoler si le test est positif. Et le problème avec ce type de test actuel, c'est que les porteurs asymptomatiques, eux passent au travers du démail du filet.
Là, les chiens,
et donc la solution pour dépister de façon massive, rapide et même gratuite pourrait bien venir du meilleur ami de l'homme, le chien, et vous allez voir comment tout à l'heure.
Merci Farah, le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Agathe Le Caron qui nous accompagne cet après-midi. Agathe, vous présentez l'émission La Maison des Maternelles sur France 5. Je vous demandais à l'instant si vous étiez au bout du rouleau à l'issue de ce confinement. Et en fait, vous aviez déjà un peu donné la réponse à l'antenne.
Je suis au bout du rouleau. Donc je ne sais même pas si je peux continuer cette émission. Déjà qu'on a vu mes seins, parce que ce micro pèse.
Il était temps que ça se termine, hein, ces émissions confinées.
Écoutez, je pense qu'il était largement temps. Bah, c'est-à-dire que j'avais quand même le physique de Jermaine Jackson.
Non.
Les gens ont découvert que j'avais des cheveux en poils de bœuf. J'avais même plus envie de me maquiller. J'ai interviewé des hommes politiques en legging avec des charentaises. Il faut là, je pense que c'est vraiment, il est largement temps que tout cela cesse. Et d'ailleurs, ça y est, je suis déconfinée à moitié, mais déconfinée. Et alors, on est dans un studio, j'ai un brushing et tout. Oh là là.
Vous êtes contente? Il y a une excitation à revenir en studio. Moi, je sais que j'étais très bien dans mon canapé, puis finalement là, de retrouver Eva dans le studio, je suis très content. Vous aussi, vous êtes content de retrouver vos collègues?
Non, mais évidemment, moi, le moindre rendez-vous me paraissait une montagne à gravir. Alors aller le matin, tous les matins en direct dans un studio, quelle horreur. Et ben en fait, non. Je suis très contente et ça me met du baume au cœur.
Agathe, on sent votre bonne humeur. Vous êtes quelqu'un d'anxieux ou pas du tout dans la vie? Le Covid vous a fait peur? À un moment, vous vous êtes dit, est-ce que comme moi, vous avez ressenti les symptômes? Moi, pendant 3-4 jours, je ne répondais plus au téléphone, je respirais plus. Hein.
Voilà, oui. Alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires. J'ai perdu le goût et l'odorat. Malheureusement, ma sérologie est négative. Non, je suis super hypochondriaque. Je suis super angoissée. Donc, pour moi, ça a été une période très compliquée. Je pense que pour les gens angoissés, ça a été terrible.
Mais angoissée pour vous et pour vos enfants ou d'abord pour vous et c'est que pour vous?
Essentiellement pour moi.
Les enfants dans un second temps. En avril, on a pu assister à une séquence quand même très très mignonne.
Oh, oui.
Quand Félix, un de vos enfants, est venu vous quémander un câlin alors que vous étiez à l'antenne.
Qui mêle l'art de l'écriture. Oula, je crois que j'ai un petit enfant qui arrive là. Qui mêle un câlin. C'est pas le moment, chérie, mais bon, voilà.
Allez, câlin, quoi.
Bah oui, c'est trop chaud. Puis dans une émission comme La Maison des Maternelles, ça tombe sous le sens, une séquence comme ça.
Ouais, non, c'était trop mignon. J'ai eu quand même autre chose. J'ai fini en hurlant comme ça la première. Donc là, c'était moins chouette.
Il avait fini quoi?
Bah écoutez, je vous expliquerai hors antenne. Adieu quand nous verrons.
Mathieu, son fils est trop grand. Il a oublié ce que ça voulait dire. C'est fini.
C'est ça. Ouais.
Moi, c'est surtout mon chat qui
vous est
emmerdé pendant ces émissions confinées. Elle se foutait toujours sur moi avec le micro. Ça raclait contre le micro. C'était très, très agaçant. Alors, est-ce que vos enfants vous manquent maintenant que vous êtes déconfinés, Agathe? Ou au contraire, vous vous dites, je vais bosser tout l'été. Moi, tiens, on va faire la maison des maternelles. On va continuer cet été.
Non, honnêtement, mais là, vraiment, le plus honnêtement possible, mes enfants me manquent pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que non, je les ai quand même beaucoup vus. Ils n'ont pas arrêté de se taper, de hurler. C'est-à-dire que vivre 2 mois en travaillant comme j'ai travaillé, c'est-à-dire non-stop, avec un mari qui travaille non-stop et des hurlements. Non, franchement, je pense qu'on a tous vécu. C'est nerveusement, c'est intenable. Et en plus, j'étais dans des bonnes conditions et tout. Donc, j'ose même pas imaginer pour des gens qui habitaient dans des tout petits appartements. J'arrêtais pas de me le dire, que j'avais pas le droit de me plaindre, mais je me plaignais quand même tout le temps.
C'est ce qu'on aime chez Agathe, c'est qu'elle nous déculpabilise en tant que parents.
Oui, c'est
quand
ça. Mais c'est vrai, mais l'émission est faite pour ça, notamment.
L'émission est là pour ça.
Pour
alors justement, quelles questions vous avez eues pendant cette période? Est-ce que déjà vous avez eu plus de questions que d'habitude pendant cette période confinée?
C'est-à-dire qu'en fait, au début, on s'est demandé, on a arrêté les émissions par la force des choses. On a fait une dernière spéciale un lundi à France Télévisions, et puis après, on a arrêté. Et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de questions sur les réseaux. Les femmes enceintes étaient un peu la population oubliée. Hein. Donc, il n'y avait plus de préparation à la naissance, il n'y avait plus de suite de couches. Elles ne savaient pas si les conjoints pouvaient assister à l'accouchement. Elles étaient complètement paumées. On disait que c'était une population à risque, mais en même temps, on ne leur disait pas pourquoi. Enfin bref, donc on s'est dit là, vraiment, il y a une vraie demande. Et puis après, évidemment, il y avait comment occuper les enfants, comment gérer le télétravail avec des enfants petits. Et surtout, moi, les miens, 4 et 6 ans, à la limite, je peux les mettre devant un coloriage et ça passe. Mais quand on a des enfants de 15 mois qui commencent à marcher pour les occuper, c'est l'enfer. Donc non, je pense que là, pour le coup, on a eu une vraie mission de service public. Et au début, j'avais des frissons quand il y avait le générique. Je me disais, oh là là, mais là, tout prend un sens. Enfin bon, j'étais dans un état pas possible. Bon, après, ça a été un petit peu récurrent, en fait, avec les enfants qui hurlent derrière. Mais bon, non, franchement, c'était... Non, je pense que vraiment, pour le coup, on a ressenti une vraie demande, quoi.
La maison des maternelles sur France 5, l'émission plus utile que jamais en ce moment. Agathe Le Caron passe un moment avec nous cet après-midi. Et si, comme dans certains pays, Eva, au lieu de pouffer bêtement...
Mais non, je ne pouffe pas, vous me faites rire.
Pour traquer les malades, la France avait recours aux chiens renifleurs de Covid. On le sait, l'odorat de l'homme est limité, à part quelques odeurs familières qu'il identifie facilement, comme par exemple Eva lorsqu'elle passe à côté des bureaux de Philippe Vandel.
Ça sentait la bœuf de partout.
Globalement, notre odorat donc est limité. Alors que celui du chien est tel que certains bien dressés peuvent identifier le virus. Comment? Franck Esri nous explique, à tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Sur le papier, l'idée est assez géniale. Confier à des chiens dressés pour ça le soin de détecter dans la rue les personnes atteintes, parfois sans le savoir, du Covid-19. Certains pays le font, mais le problème, c'est le parfum. Si par exemple le chien couvre un secteur où a évolué Eva Rock.
Voilà, un peu de fraîcheur à l'antenne.
Eva qui a tendance à abuser de son nouveau parfum, Sirocco d'Enchoyade. Eh ben, va renifler le Covid dans un tel bordel olfactif. Les chiens renifleurs de Covid, est-ce que ça marche en vrai? C'est la question que vous vous êtes posée, Farah Kessri.
Vous auriez pu dire Mistral plutôt que Sirocco. Hein.
C'est vrai, Mistral d'Enchoyade, c'est encore plus violent. Farah, parlons sérieusement de ces chiens renifleurs de Covid.
Oui, bah en fait, je pense qu'ils pourraient même détecter n'importe quelle odeur. Hein. Vous savez que les chiens ont une super bibliothèque au niveau du cerveau pour détecter différentes odeurs. Donc même le parfum d'Eva, ils pourraient passer au travers sans problème.
Ah ouais.
Donc... Concernant ces recherches actuellement sur des chiens renifleurs pour dépister le Covid, en fait l'intérêt c'est de pouvoir dépister de façon plus rapide, plus simple et surtout dans des endroits où il y aurait beaucoup de monde, comme par exemple les gares, les aéroports et pourquoi pas dans les centres commerciaux. Et l'une des équipes qui justement avance pas mal sur ces recherches, elle est française et c'est un vétérinaire, le docteur Dominique Grandjean, qui est professeur à l'École nationale d'Alfort, chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il encadre l'entraînement d'une dizaine de chiens de la brigade sur différents sites. Et le but, bien sûr, c'est apprendre aux chiens à identifier des patients atteints de Covid-19 grâce à leur odorat exceptionnel. Et je vous rappelle que la muqueuse nasale des chiens, eh bien, elle comporte, selon les races, entre 150 millions et 300 millions de cellules.
Et nous, on en a combien ?
Nous, c'est à peine 10 millions.
Ah ouais ?
Donc c'est très peu. Même la taille de leur muqueuse et nous, la nôtre, elle mesure à peine, je sais pas moi, à peu près celle d'un timbre-poste, alors que la leur, c'est environ 200 cm². Vous voyez, c'est vraiment...
Ah oui, ils sont vraiment avantagés.
Absolument. Oui. Ils ont quand même le nez assez long, hein, puisque c'est une longue truffe. Nous, on a un petit nez court, donc c'est aussi pour ça.
Ça dépend. Moi, je devrais avoir un bon odorat, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. J'ai pas un très bon odorat.
Oui,
moi.
Mais par rapport à un chien, il reste quand même assez petit. Ouais,
effectivement.
Tout est relatif dans la vie, vous voyez.
Oui, voilà, c'est ça. Absolument. Donc, ce qu'il fait, c'est que les chiens voient le monde qui les entoure à travers leur nez, plus qu'à travers leurs yeux. Il faut vraiment imaginer qu'ils détectent tout par l'odeur.
Et alors, les chiens, on le sait, détectent les patients atteints de cancer, mais avec une maladie virale. C'est la même chose ? Le virus a une odeur ?
Alors non, c'est pas le virus qui a une odeur. Alors il faut savoir que par exemple, dans le cas d'un cancer, c'est la cellule malade qui va libérer les molécules odorantes. Dans le cas d'une maladie virale, c'est le virus qui provoque des réactions chimiques qui vont libérer des molécules odorantes de la part de nos cellules de défense en particulier. Et ces molécules qui ont un marquage olfactif vont être éliminées dans différentes sécrétions. Ça peut être les larmes, la salive, les urines ou la sueur. Et pour le Covid-19, il fallait déjà savoir si c'était la même chose. Donc la première étape, ça a été de voir si on avait vraiment des molécules odorantes dans différentes sécrétions et si on pouvait en trouver quand même dans celle qui est l'une des plus simples, c'est-à-dire dans la sueur, parce que la sueur c'est quand même plus facile à les récolter que, excusez-moi, le sperme, parce que même dans le sperme, vous savez,
ça dépend pour
vous
qui
avez des traces du Covid.
Oh Mathieu.
Pardon Eva, parce que là j'ai lancé évidemment un regard perfide à Eva, c'était vraiment du meilleur goût. Est-ce que c'est compliqué d'entraîner un chien à reconnaître une maladie virale? Ça doit prendre du temps, enfin.
En fait non, pas tant que ça, parce que il faut savoir que c'est pas le chien de votre voisin qui va être entraîné, c'est vraiment des super champions de l'olfaction. Les chiens de la brigade sont déjà habitués à renifler des odeurs de stupéfiants, ils ont l'habitude de rechercher des explosifs, c'est parfois plus de 40 odeurs différentes qu'ils ont l'habitude de repérer. Alors la question qui s'était posée, c'est que est-ce que quand même les chiens étaient capables de détecter une maladie virale? Et là, ça a été prouvé, il y a déjà 4 ans environ, par une équipe américaine qui a réussi à prouver que les chiens étaient capables de détecter les vaches qui étaient malades, qui étaient atteintes d'une maladie particulière qu'on appelle la maladie des muqueuses. C'est une maladie virale extrêmement contagieuse qui provoque des grandes pertes économiques. Et justement, quand ils ont pu prouver que les chiens pouvaient vraiment repérer le virus, en tout cas la présence du virus, ils se sont dit, banco, il faut vraiment qu'on teste ça sur le Covid-19. Et Dominique Grandjean est vraiment satisfait par les premiers résultats parce que apparemment, selon lui, il a suffi d'une semaine pour que les premiers chiens puissent réellement détecter la sueur qui était plutôt positive. Alors la technique, elle est assez simple, hein. Vous savez, vous placez des compresses sous les aisselles des patients Covid, vous récupérez ainsi la sueur et vous enfermez cette compresse dans des tubes pour emprisonner l'odeur. C'est des tubes avec un filtre. Après, vous les placez dans des bacs. Alors certains comportent des compresses, des tubes provenant de personnes qui sont Covid plus et d'autres qui sont plutôt Covid négatifs, donc qui ne sont pas malades. Et vous voyez la réaction du chien. Si le chien s'assoit devant la caisse qui contient le tube Covid plus, eh bien là, on dit qu'il a marqué la bonne odeur. Mmh. Et c'est ainsi sur une semaine que l'entraînement se déroule. Et apparemment, les chiens arrivent vraiment à reconnaître les bons tests, les bons prélèvements.
Et mais Eva, si jamais un chien dans la rue s'arrête à côté de vous et commence à vous renifler, vous allez réagir?
On sent pas le cul des gens.
C'est vrai qu'en France, on a cette éducation des chiens normalement. Mais enfin bon, là, si c'est pour la bonne cause, on est peut-être d'accord. Merci beaucoup, Farah Kasri, pour toutes vos explications.
Europe 1,
respectant à la règle les consignes gouvernementales, nous n'accueillons pas encore d'invités en studio, mais nous prenons des nouvelles chaque après-midi des personnalités qu'on aime. Hier, la délicieuse Imani, avec qui on a eu quelques petits pépins techniques, heureusement compensés par sa gentillesse.
Avec une voix de robot, là.
C'est vrai? Entend très bien. Hein.
C'est juste qu'on a une voix pourrie à la base, peut-être. Hein,
Donc, bonne idée d'avoir fait de la radio.
Eh ben, elle nous a pas loupé. Espérons qu'Agathe Le Caron, la présentatrice de la Maison des Maternelles sur France 5, soit moins cassante. Non, mais avec Eva, on n'a pas des voix pourries. Enfin, surtout moi.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures au service de votre culture G et surtout en ce moment de votre quotidien. Un quotidien chamboulé pour beaucoup d'entre vous par la présence permanente et souvent gluante de ces petits êtres malicieux qu'on appelle les mioches. Plus vorace que le souricate, plus perfide que la hyène, le mioche doit être l'objet d'une attention constante sous peine que justement vos objets n'y survivent pas. Heureusement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez en tant que parents sont dans l'excellente émission La Maison des Maternelles tous les matins à 9h sur France 5, présentée par la non moins excellente Agathe Le Caron qui est avec nous en ligne cet après-midi. Une fille géniale, très cash, hein, ce qu'on aime particulièrement chez vous, c'est ce côté sans filtre, notamment avec vos collaborateurs, Agathe. Eva, vous vous plaignez souvent que je vous tacle, mais sachez que j'ai trouvé mon maître. C'était lundi, vous échangez avec Marie, l'une de vos chroniqueuse.
Êtes-vous épilée, Marie? Parce que ça, c'est une grande question du confinement.
On a fait ce
quand je vois vos chaussures, j'ai de gros doutes. Hein. J'ai pas envie de regarder votre sous-de-bras quand je vois vos crocs. Hein.
Eh ben, vous êtes encore pire que moi, Agathe.
C'est vrai que vous êtes un peu mon maître à penser.
Voilà, c'est ça.
Et voilà.
Dans votre émission, toutes ces questions que les jeunes parents se posent, alors j'imagine que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de questions. Vous nous parliez des femmes enceintes qui étaient effectivement un peu les oubliées. On ne savait pas trop ce qu'elles devaient faire. Quelles questions les plus étonnantes vous avez reçues pendant cette période?
J'en ai reçu une formidable ce matin, qui est: pourquoi est-ce que tous les gens portent des masques? Alors je pense
non,
que c'était...
c'est pas possible.
Non, je pense que c'était une vanne, mais on s'est quand même demandé parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de débrief, quoi. Donc c'était: bonjour, je remarque que tout le monde porte des masques. Pourquoi? Bon là, non. Et puis on a eu aussi, oui, on s'est fait engueuler la semaine dernière. Il y avait une dame qui nous a envoyé sur les réseaux qu'on parlait pas du tout des femmes enceintes. C'était scandaleux. Bon ça fait quand même
deux mois qu'on en parle
non-stop.
Est-ce que là il y a un débat, un vrai débat de société actuellement, c'est le retour à l'école.
En tant que parent, on se pose la
question, quand on peut les renvoyer à l'école, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on a peur, j'imagine que ça c'est une question qui revient beaucoup actuellement.
Alors là en ce moment on a que ça, c'est les retours à la crèche, les retours à l'école, et on essaye d'y répondre d'abord avec des scientifiques qui nous ont quand même beaucoup rassurés, donc je vous invite à regarder les replays parce que si vous êtes stressé c'est vraiment vachement bien. Et puis on a un pédiatre, et puis on a des directrices d'école. Ce matin on avait une directrice de crèche qui nous a expliqué comment est-ce qu'ils arrivaient à maintenir les gestes barrières, la distanciation entre des bébés, ce qui paraît absolument infaisable. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a les règles, et puis après, dans la pratique, c'est assez assoupli, et c'est vachement rassurant, et d'un point de vue santé, et d'un point de vue psychologique pour nos enfants, au point que moi, qui suis hyper stressée, je vous le disais tout à l'heure, j'ai remis mes enfants ce matin à l'école, parce que c'était leur rentrée.
D'accord, vous avez été convaincue par ce que vous ont dit les scientifiques. Eva?
Agathe, pendant l'émission et pendant ces dernières semaines, vous n'avez pas été confrontée à des propos contradictoires contradictoire parce qu'on avait un scientifique qui disait telle chose et puis le lendemain autre chose. Est-ce que ça vous a posé des problèmes pour donner une information la plus juste possible ?
Alors oui, de toute façon, je crois que ça c'est plutôt tout le temps quoi en fait. Moi, je remarque depuis que je présente les maternelles que j'ai un pédiatre qui dit blanc un jour et lendemain noir. C'est pas très rassurant. Déjà dans l'absolu, c'est pareil avec les psys, etc. Donc finalement, nous on propose plusieurs voies et puis après chacun fait son marché. Ça c'est en règle générale. Non, là je pense qu'ils ont été plutôt prudents. Donc nous, ce qui nous gênait, c'est qu'on n'avait pas de réponse à nos questions parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas. Donc là, ça a été l'enfer parce qu'on sentait que, ne serait-ce que pour la présence des conjoints, ça paraît un détail quand on parle de santé publique et tout, mais en fait non, psychologiquement pour une femme qui va avoir en plus son premier bébé par exemple, pas avoir son conjoint en salle d'accouchement, c'est un vrai sujet.
Bien sûr.
Ça fait peur d'accoucher et en fait, alors déjà une maternité n'était pas l'autre, ils n'avaient pas encore de recommandations, puis tout à coup il y avait une recommandation mais les maternités ne les suivaient pas parce qu'ils flippaient un peu, donc on a oscillé entre tout ça et bon oui bah finalement on a beaucoup dit qu'on ne savait pas hein. On a beaucoup dit qu'on n'avait pas de recul, mais je pense que ne serait-ce que de parler d'elles déjà de ces femmes enceintes, ça les rassurait, ça leur faisait du bien.
Agathe Le Caron, l'émission La Maison des Maternelles est un gros carton, les gens veulent savoir, et je veux dire, la France a le droit de savoir. Quelle est la part, c'est-à-dire que vous présentez, vous nous déculpabilisez en tant que parents, mais vous, est-ce que vous êtes comme ça dans la vie, est-ce que vous jouez un personnage un petit peu genre pour nous déculpabiliser, vous dites
tout va bien, je vais bien,
il y a des conseils
voilà.
que je n'arrive pas à appliquer à mes propres enfants, ou est-ce qu'en fait vous êtes une mère parfaite et vous jouez juste un rôle?
Non, bah écoutez, de toute façon j'aurais, quelle horreur les mères parfaites quoi. Oh, là, ça fait des enfants qui sont chiants comme la pluie, mais non, soyons imparfaits, je veux dire non, moi ce qu'il y a c'est que j'ai tellement, comme toutes les femmes, en plus j'ai eu mes enfants tard, donc je me suis collé une pression dingue, je me suis dit il faut faire ci, il faut faire ça, dès qu'il y avait le moindre enfant qui se rongeait les ongles, je me disais psy tout de suite et tout, oula et je me suis rendu compte qu'en fait on est les meilleures mères possibles et que c'est déjà formidable et que voilà, non je joue pas un rôle, de toute façon je suis incapable et c'est un gros défaut, c'est ce qui fait que j'ai jamais fait de prime sur TF1, enfin un seul, c'est que je pense que je suis un peu trop justement spontanée et puis voilà au bout d'un moment et je pense que c'est ça que les parents aiment justement, c'est que Benjamin Muller et Marie-Père Arnaud sont comme moi, on galère et on le dit quoi, heureusement.
Agathe Le Caron, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à présenter la Maison des Maternelles, est-ce que dans votre vie personnelle quand vous croisez des copines, est-ce que c'est pas toujours la première question,
c'est
au fait Agathe, alors comme si vous étiez pédopsychiatre quoi.
Alors c'est le premier truc, c'est sur le sommeil. Ouais, je t'appelle Agathe parce que mon enfant, en fait, voilà. Tu vois, il dort plus du tout, Oscar, c'est un cauchemar. Il se réveille 3 fois par nuit. Donc, du coup, je vais lui redonner des biberons. Donc, à ton ami, qu'est-ce que je fais? Mais je suis aussi sage-femme. C'est-à-dire que je rééduque les périnées, Mathieu. Oui, absolument.
Ah oui, ça, c'est intéressant. Oui.
Je suis devenue la pro des varices vulvaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais sur Instagram, c'est hallucinant parce qu'en fait, les gens croient que je suis pédiatre et tout. Donc, c'est un peu compliqué.
Agathe Le Caron, entre toutes ces questions, toutes ces connaissances et tout cet humour, est-ce que vous n'avez pas eu envie d'écrire une série sur ce sujet ?
J'ai eu envie, mais je pense que alors j'ai même fait une formation d'écriture en scénarii.
Ah oui ?
Mais ouais, et puis en fait, je pense que c'est un manque de confiance, et puis je pense aussi qu'il faut écrire à deux. Mais c'est vrai que j'ai pas une sorte malgré de,
moi
mon grand âge.
Bien, je vous verrais bien écrire une sorte de Desperate Housewives, mais version.
Alors c'est marrant, vous disiez ça parce que je vais en parler. J'en ai trouvé une de version de Desperate Housewives, mais sur la parentalité.
Ça s'y prête bien.
Et on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, et je l'ai faite parce que je pensais à vous Agathe, et je me dis qu'il faudrait la version française, maintenant c'est la version américaine qui s'appelle Working Moms.
Un peu plus de boulot pour vous Agathe, comme on trouve que vous ne bossez pas suffisamment.
C'est ça, j'ai pas trop de boulot quoi. Voilà.
Parce qu'en plus de la Maison des Maternelles, il faut également parler de ce podcast intitulé Ex. De quoi s'agit-il?
Absolument. Et oui, effectivement, j'avais pas assez de boulot Mathieu, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, alors moi je suis une folle de podcasts en fait. J'écoute des podcasts toute la journée, beaucoup de podcasts d'Europe 1 d'ailleurs, que j'adore, qui est ma radio chérie.
Excellente radio ça.
Excellente radio. Voilà, et donc du coup je me suis dit tiens, il n'y a pas tellement de podcasts sur les histoires d'amour. Moi ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est que c'est un endroit où on entend plus d'intimité en fait. Voilà, sinon il y a la télé, la radio. Mais là, je n'ai pas l'impression que les gens se livrent plus. Et j'en ai pas trouvé un qui me
me plaisait. Alors moi, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, bah, je le fais.
Voilà. Vous l'avez fait. Ça s'appelle donc Ex, et on peut retrouver ça où on tape Agathe Le Caron Ex et on
voilà, sur toutes les bonnes plateformes. Si vous ne trouvez pas Ex tout court, vous tapez Agathe Le Caron à côté et vous le retrouvez. Franchement, c'est vachement bien.
Et c'est plein d'histoires d'amour que des oui. anonymes vous racontent.
Oui. Et Keva adore écouter en s'imaginant, qu'elle les vivra peut-être un jour.
Exactement.
Ces belles histoires d'amour. On rappelle la maison des maternelles du lundi au vendredi à 9h sur France 5. Merci beaucoup Agathe Le Caron de nous avoir fait un petit coucou.
Merci à vous deux. Gros bisous. À très bientôt.
Merci Agathe. Europe 1.
Chaque époque a ses icônes, ses légendes. Et si certains jouaient jadis du piano debout, d'autres font aujourd'hui du journalisme en crocs. Ce qui suscite le même étonnement chez leurs contemporains et parfois même leurs collègues qui n'hésitent pas à leur demander, ce qui est d'ailleurs proprement dégueulasse...
T'as une carte de journaliste ou pas ?
Mais oui Eva, Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux, a une carte de journaliste comme vous. Et il va vous le prouver avec son sujet du jour. Figurez-vous qu'une bordelaise a reçu un chèque de Donald Trump. Pourquoi ? Comment ? Vous êtes intrigué, hein ?
Oui.
Eh bien vous le saurez après Aldebert. Corona Minus, la chanson pour apprendre gaiement les gestes barrières.
Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante.
Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains d'un être qui la science, et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood, prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et nom d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain, ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés, jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide, telle est votre mission et ce fichu Covid. On lâchera les baskets et nous crierons victoire, partout sur la planète, on fêtera son départ. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient de renvoyer sur Vénus.
Minus, c'était Aldebert sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Une rumeur infâme s'est propagée dernièrement selon laquelle l'équipe est sauvage, la grande compète opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, serait pipotée. Tout est parti d'une déclaration d'un invité, Laurent Deutsch, accusant un de nos journalistes de lui avoir proposé un pot de vin afin qu'il vote pour lui.
Nicolas Caron. Alors lui, il a essayé de m'acheter, Nicolas, déjà.
C'était bien sûr totalement faux, aussi infondé que la rumeur concernant Mathieu Charrier et Stéphane Place, qui auraient même poussé la magouille jusqu'à surenchérir dans le pot de vin au moment d'un quitte ou double.
Tout dépend si vous voulez goûter ou pas ce bon vin que j'ai reçu lors de notre dernier enregistrement.
Ah bah si c'est ça, moi je rajoute une prime de chipot. Hein.
Stéphane Place, rangez vos chipots. On ne mange pas de ce pain-là. Il n'y a que la chronique qui nous intéresse. Oh, justement, aujourd'hui, Stéphane, votre chronique s'annonce aussi savoureuse que vos chipots.
Ah bah, je l'espère. En tout cas, elle s'annonce effectivement étonnante. C'est une histoire totalement insolite. On l'a découverte, on va leur tirer un coup de chapeau d'ailleurs dans les colonnes de nos amis du journal Sud-Ouest. L'histoire, elle est très simple. Un beau matin, en plein confinement, cette jeune habitante de l'agglomération bordelaise va relever son courrier, elle ouvre sa boîte aux lettres et là, elle découvre une enveloppe déjà en provenance des États-Unis. Bon, curieux, mais quand elle ouvre l'enveloppe, l'étonnement est encore plus important, plus grand. Salomé Baudelot va vous expliquer ce qu'elle a découvert.
J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un chèque en provenance directe des États-Unis et signé par le président des États-Unis, donc Donald Trump. Un chèque de 1 200 $. J'ai vécu 6 mois aux États-Unis l'année dernière. J'ai travaillé pour Walt Disney World en tant que vendeuse en boulangerie. Aux yeux de la loi et aux yeux des États-Unis, j'étais contribuable, bien que n'étant pas citoyenne américaine à part entière. Je vais le mettre de côté et ça va me permettre, moi, de partir dès que tout ça sera fini et qu'on aura l'autorisation de partir en voyage.
Alors, comme
c'est
disait
incroyable.
Des proches,
ah, oui.
Étonnant, non ?
Ah, mais oui. En fait, étonnant, oui.
Mathieu, qui hors antenne, disait encore l'autre jour, Trump est une pince et tout ça, il expliquait qu'il pouvait avoir des problèmes et il insistait. Bah, là, vous avez la preuve que l'administration américaine, en tout cas, elle est très réglo, puisque Salomé vient de l'expliquer, elle a travaillé aux États-Unis dans un parc Disney à Orlando, en l'occurrence pendant quelques mois. Elle est restée donc de toute évidence dans les fichiers. Et du coup, elle a bénéficié de ce chèque qui, vous le savez, est la conséquence du plan d'aide fédéral débloqué par Trump à l'occasion de cette crise sanitaire majeure qui frappe cruellement aussi les États-Unis.
C'est vraiment étonnant quand on connaît le côté protectionniste de Trump, qu'ils n'aient pas vérifié leur administration, qu'ils n'envoient pas des chèques à des gens qui ne sont pas des ressortissants américains, même s'ils ont travaillé sur le sol américain à un moment. C'est vraiment étonnant.
Oui, elle est insolite cette histoire. Vous avez entendu cette bordelaise. Elle est elle-même très étonnée. Bon, en tout cas, elle aura l'occasion donc de financer, quand elle pourra reprendre l'avion, un voyage peut-être
outre-Atlantique
pour aller remercier les Américains. Alors, 1 200 $, moi j'ai moins l'habitude que vous, Mathieu, de calculer par rapport aux devises étrangères, etc.
C'est à peu près pareil, je crois.
Ça fait un peu plus de 1 100 €. Quoi.
Oui, c'est ça.
Et alors, j'en profite pour signaler à l'administration américaine que j'ai moi-même travaillé aux États-Unis, c'était au début des années 2000, et que donc, si mes calculs sont bons, parce qu'elle a travaillé un petit moment, moi j'ai travaillé plusieurs mois, je pense que je dois pouvoir avoir dans les 3 4 000. Hein. Ouais. Il faut raquer maintenant, Donald, si tu nous écoutes, si tu écoutes Europe One, send the fucking money, quoi. Show me the money, merci.
En tout cas, ça explique les velléités de construction de murs depuis de Donald Trump. Il a dû garder un souvenir de votre passage, manifestement. Hein. Il ne faut pas que vous reveniez, quoi.
Il a pas encore...
Vous ne seriez pas manqué un peu de lui, de ses crocs sous sa chevelure.
Un mur avec la Suisse, ça pourrait être une nouvelle idée. Merci Stéphane Place, on vous embrasse, ainsi que votre belle-mère avec qui vous êtes visiblement un peu taquin.
Belle maman, reste au bout de la table, je vais pointer ou tirer, je ne sais pas encore.
Oh, belle maman.
Europe 1.
Elle pourra évidemment toujours se consoler en se disant qu'il y a eu dans l'histoire des Jeux de pires candidats qu'elle.
Qu'est-ce qui, de retour de Rome, rapporte du chocolat aux enfants?
Le pape.
Je trouve toujours pire, mais bon, Eva Rock dans le quiz de Culture G, c'était quand même quelque chose. Et il ne s'agirait pas de l'oublier. Le meilleur du quiz à venir dans l'Équipée Sauvage.
Europe 1, 16h, 18h, l'Équipée Sauvage. Sur Europe 1, l'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Les plus grands esprits contemporains s'y sont frottés un jour ou l'autre, le quiz de Culture G. Pour certains, ça a été dur.
Quel savant ? Quel est ce savant ? Natif ? Oui, savant de Marseille.
Mais pour d'autres, Eva, ça a été encore plus dur.
Oh putain.
Eh oui, chaque jour, Eva Rock affrontait l'invité dans un quiz redoutable sur un domaine où l'invité était incollable et elle, complètement nulle. Le résultat était rarement une surprise. Souvenez-vous. Voici qui veut gagner un set de table, Alain Accot. Denis Brognard, en hommage à l'épreuve des poteaux, en particulier, et au sadisme en général qui règne dans Koh-Lanta, le quiz portera...
Non, arrêtez de parler de sadisme, Mathieu. S'il y a bien un mot que je déteste, c'est celui-ci. Gardez-le pour votre émission.
Vous allez voir.
Sur le fait de départager vos chroniqueurs.
Vous n'y échapperez pas quand même. Un quiz sur les performances physiques inhumaines. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Denis, Guy Yang s'est suspendu à une perceuse accrochée au plafond. Plus il appuyait sur la gâchette, plus il tournait vite. Il a fait 141 tours en une minute, vrai ou faux?
Ça veut dire plus, ça veut dire près de 3 tours par seconde. C'est un truc de dingue. Allez, parce que ça m'amuse, je dis vrai.
Et vous avez raison. Il a réalisé cette performance totalement inutile à la télévision allemande, où on voit décidément de belles choses. Il était d'ailleurs opposé à un Français qui n'a réussi, lui, à faire que 83 tours.
Même. Ça peut être une prochaine épreuve de Koh-Lanta.
Mais voilà, pourquoi pas. Je vous fournis des idées clés en main.
Moi, je préfère ça à la roulade. Hein, parce que...
Ça devrait plus plaire aux téléspectateurs. Eva Rock, Joseph Todling est autrichien. Et il a le record de la plus longue distance parcourue tirée par terre par un cheval alors qu'il était en feu. Joseph, pas le cheval. D'après vous, est-ce vrai ou faux?
Mais non, le pauvre garçon en feu, non, c'est faux ça. C'est horrible comme histoire.
Mais n'oubliez pas qu'on est en Autriche. Tout est possible, la réponse est vraie.
C'est pas vrai.
500 mètres, record impressionnant, même s'il est le seul à avoir tenté de le faire. Joseph est cascadeur professionnel, il a également le record de durée en torche humaine sans assistance respiratoire. 5 minutes 41, il y a vraiment des fous. Attention.
Ça me rappelle un candidat de Ninja Warrior qui était arrivé et qui nous avait fait la démonstration. Il était champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Ah oui.
Alors attention, vous répondez ensemble les amis. Une question, trois propositions. En juillet dernier, France 3 a consacré un reportage très impressionnant à Jimmy Defresne, un Belge de 48 ans. Quel record a-t-il établi? 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes. 2. Il a joué du clairon en faisant le cochon pendu pendant 3 heures. Ou 3. Il a mangé son poids en frites en 8 jours.
Moi j'ai dit 3.
Les frites en Belgique, en 8 jours.
Ah oui, moi j'aurais dit le clairon en cochon pendu là.
Fiasco total pour vous.
Ah.
C'était la réponse 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes.
Bah,
c'était pour la bonne cause. Il faisait payer. Ben, essayez de rester 120 heures sur les toilettes.
Bah, vous dormez, c'est pas grave.
Vous dormez sur les toilettes, mais qu'est-ce que vous racontez?
Bah, vous pouvez dormir assis, donc c'est pas un exploit.
Il faisait payer les gens qui se prenaient en photo avec lui sur les toilettes. Il a récolté 250 euros pour une offre caritative. Ben, 250 euros en 120 heures.
Oh, il est pas très fort.
Il aurait pu récolter plus.
Hein.
Vous savez à quoi ça fait penser? Vous avez vu ce film avec Paul Verhoeven, Les convoyeurs attendent?
Ah, oui.
Hein, on était en Belgique déjà.
Ouais.
Et là, ce type voulait. Il était garde barrière et un peu journaliste et il avait l'objectif de rentrer dans le Libre des Records, mais il n'avait aucune compétence et il avait demandé à son fils adolescent de passer le plus de fois une porte d'un côté et de l'autre pendant 24 heures et il avait monté un châssis de porte dans son jardin. C'était terrible.
Je vous recommande ce film dont vous entendez de temps à autre des répliques dans notre émission.
Ouais, j'adore.
Eva
en noir et blanc, magnifique.
C'est un soldat de la marine chinoise qui a le record de non-clignement des yeux. Il a réussi à rester 57 minutes sans bouger un cil. Vrai ou faux?
Ah, j'irais vrai, mais c'est horrible.
Et c'est vrai, Eva.
Ah ouais.
Il est technicien balistique, il a tenu 57 minutes et 24 secondes. Le précédent record était de 40 minutes. Denis Brognard, attention, c'est la question qu'il va vous les partager, à 66 ans. Shelby Morris vit à Memphis. Elle a battu un record en mars 2014. Elle a mangé 17 œufs, mais avec la coquille.
Oh,
vrai ou faux? Denis, tout se joue là.
Ouais, je sais, Mathieu. Franchement, depuis le début, il n'y a que des bonnes réponses. Il fallait toujours dire vrai.
Ouais.
Donc, je vais continuer à dire vrai. Si vous me dites que c'est faux, je le prendrai très très mal. Donc, je dis vrai, mais je ne comprends pas comment on peut bouffer autant d'œufs avec des coquilles. Mais bon.
Eh bien, je vous dis faux, Denis. C'était... Eh oui, vous
allez tester, mais c'est
comme
bien.
Ça. C'est comme ça. Ouh, il est génial ce jingle lose. Qui gagne le quiz?
On a égalité.
Égalité
crois.
Parfaite.
Bah, oui,
personne ne remporte le set de table à la
cause.
On
m'a reproché très souvent ça. Le égalité parfaite. Une égalité est forcément parfaite.
Ah oui,
c'est vrai, c'est juste. Oui. J'ai dit égalité parfaite.
Mais moi je disais souvent
c'est
ça aussi.
Égalité parfaite. J'ai trop regardé Koh-Lanta,
ben
ça doit
voilà,
être pour ça.
C'est ça.
Et notamment l'épreuve
vous
de la roulade.
Plus.
Europe 1.
Depuis lundi, beaucoup d'entre vous jubilent.
On était confinés, on est libre, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on attend ce moment depuis bien trop longtemps. Mais ne vous emballez pas et dites-vous de temps en temps.
J'ai envie de dire oui, pas trop vite, mes cocos. Vous avez oublié les gosses.
Oui.
S'ils n'ont pas pu retourner à l'école, c'est logiquement qu'ils sont toujours à la maison et qu'il faut s'en occuper. Alors, si vous voulez faire ça bien, il y a la méthode Montessori. Et si vous voulez avoir du temps pour bosser un peu et du temps pour vous détendre, il y a la méthode Rock, plus expéditif et à base d'écran. Elle vous explique juste après The Stranglers, Always the Sun sur Europe. Raise the Sun, c'était The Stranglers sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Ça fait 2 mois que vous tenez à bout de bras cette famille, de voir des enfants, ménage, ateliers créatifs, courses, élaboration des menus. En cette semaine de déconfinement partiel, vous dites enfin stop.
Vous êtes torchés, nourris, couchés, levés, consolés, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite.
Et oui, les mioches, fini les ateliers créatifs. Maintenant, pour avoir la paix, maman vous met devant la télé. C'est bien ce que vous suggérez, Eva.
Mais oui, vous savez pas à quel point j'adore ce film, La Crise, avec Maria Pacom.
Ah, vraiment, c'est ceux qui n'ont jamais vu La Crise. Hein.
Ah, non, mais rien que pour ce numéro-là, il faut le voir. Oui, alors on va profiter du week-end, Mathieu, pour partager un moment devant les écrans avec nos enfants. Sur OCS, un film d'animation vous attend. Ça s'appelle Terra Willy. C'était sorti l'an dernier au cinéma.
Alors, avec William.
Non, c'est pas avec Willy Revelli. Non, oui, il est, remarque, il est aussi petit que Willy Revelli. Oh, il s'appelle William. Mais non, mais il est petit, William Revelli, et je l'embrasse par ailleurs. Voilà. Non, c'est William. C'est un jeune garçon. Il vit avec ses parents dans un vaisseau spatial. Le voyage est en train de prendre fin. Le retour sur Terre est programmé. Sauf que le vaisseau va traverser un champ d'astéroïdes qui va mettre en péril l'embarcation. Le garçon est mis à l'abri dans une capsule de secours. Capsule qui est catapultée dans l'espace et qui finit par atterrir sur une planète sauvage. Et donc William se retrouve tout seul. Enfin presque, parce qu'il y a une drôle de boule rouge, une sorte de BB-8 de Star Wars, là, qui se retrouve face à lui.
Salut.
Sujet masculin, âge 10 ans, prénom William.
Bonjour monsieur William, je suis votre module personnel de survie en cas d'atterrissage forcé sur une planète inconnue. L'unité BUCK 0813. Mais vous pouvez m'appeler Buck. Avez-vous des questions monsieur William ?
Oui. On est où là ?
Sur une planète inconnue.
Et voilà. Alors, en attendant qu'une sonde spatiale repère William grâce à son émetteur et vienne le chercher, bien voilà le garçon qui est transformé en explorateur. Et son terrain de jeu, c'est quoi ? Et bien, c'est cette planète incroyable où les paysages changent radicalement d'une zone à une autre. Ici, tout est très coloré, mais ni les arbres, ni les plantes et surtout pas les animaux ressemblent à ce qu'on pourrait trouver sur Terre. William va devoir affronter des géants de pierre, va se retrouver allié avec des sortes de gros scarabées, se lie d'amitié avec une étrange créature au comportement similaire à un chien, mais qui ressemble physiquement plutôt à une grosse limace sur pattes, voilà, au petit garçon d'apprendre à se débrouiller parce que son séjour sur cette étrange planète va s'éterniser un peu. C'est un récit aux accents de Robinson Crusoe et de l'enfant sauvage, mais dans un décor qui rappelle parfois Avatar, un très beau film d'animation qui est scénarisé par 3 Français.
Mais
truffé de références, oui, dites-moi.
Bah non, je le lis sur le texte, donc, mais je l'avais reconnu à la voix, je vous jure, chers auditeurs. C'est Edouard Baird qui fait la voix du robot.
Exactement, la voix du robot,
j'ai
tout à fait.
C'est pas lui finalement, mais c'est lui.
C'est Edouard Baird, exactement. Et vous le verrez, le film est truffé de références à des films comme E.T., Retour vers le futur, Star Wars, évidemment. Un film qui est très réussi et qui va vous permettre en plus d'évoquer avec vos enfants les notions d'autonomie, de responsabilité et qui les poussera peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai pensé, à créer un peu leur monde imaginaire, leur planète inconnue à eux. C'est à voir sur OCS, c'est difficile à dire. Et ça s'appelle Terra Willy.
Sur OCS, c'est parce que c'est OSS, la chaîne
des nostalgiques
du régime nazi, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi Eva, c'est pour quelle tranche d'âge vous diriez ?
Alors moi je dirais qu'à partir de 6 ans, vous pouvez commencer à regarder. Il y a des petits moments un peu tristes, mais si vous êtes avec vos enfants...
Ensemble, il faut regarder ensemble.
Mais c'est toujours ce que je vous conseille, l'accompagnement c'est quand même pas mal dans les programmes pour enfants.
Et pour les ados.
Alors là, on va changer totalement de domaine, mais je suis tombée sur une série documentaire qui est à voir gratuitement sur Slash TV que j'ai adorée. Elle est intitulée Stand Up Vie. C'est le journaliste Oumar Diawara qui est parti à la rencontre de jeunes qui veulent se lancer dans le stand-up. Alors par exemple, Nordine, alors lui, écoutez bien, il habite Bordeaux. 2 fois par semaine, il monte à Paris pour 6 minutes de blagues sur un plateau de stand-up. Pas question de se payer une chambre d'hôtel, il n'en a pas les moyens, alors il traîne de soirée en soirée avant de repartir à Bordeaux par le premier train. Il y a aussi Yacine, lui qui a quitté Mulhouse pour rejoindre la capitale et assouvir son rêve, donc devenir un stand-upper, comme il dit, tout en le cachant à ses parents et tout en cachant surtout toutes les galères qu'il peut avoir. Et puis, vous allez le voir, il faut vraiment avoir la foi pour embrasser cette carrière. Riyad, par exemple, il est surveillant dans un collège le jour, il monte sur scène la nuit. On le retrouve d'ailleurs à la sortie d'une petite salle. Écoutez bien, hein, il a joué devant 5 personnes, 5 copines.
5 meufs qui se connaissent, compliqué, mais formateur. Et j'ai hâte de rejouer la même chose demain, réécrire, reformuler mes phrases Déjà essayer de réapprendre à parler, je vais voir l'orthophoniste et je reviens. Non, franchement c'était top, mine de rien. Il y a peu de monde, donc en vrai le ressenti il est pas terrible, mais je suis content parce que j'ai fait ce que j'avais écrit, j'ai rien oublié, j'ai proposé ce que j'avais à proposer, je me suis enregistré, je vais pouvoir retravailler demain. Ça.
C'est un sacerdoce, hein, franchement, pour revenir
réécrire. Oui, mais il faut se souvenir que tous les gens qui font du slam ont commencé dans des petites salles, parfois avec des gens qui, à l'époque, qui mangeaient, qui n'écoutaient absolument pas.
Il y a un extrait là-dessus, tout à fait, de gens qui n'écoutent absolument pas la personne qui est devant eux, vraiment, qui est juste à un mètre. Alors, autant vous dire qu'ils ne font pas ça pour l'argent, mais par passion, avec le secret espoir, évidemment, de percer et de se produire dans des salles plus grandes. Ils sont tous extrêmement touchants et se confient avec pudeur aux journalistes. Ce sont des petites pastilles de 6 minutes qui offrent aussi, je trouve, en tout cas, une vision de la jeunesse actuelle. Ça s'appelle Stand Up Vie et c'est à voir sur Slash TV et c'est gratuit.
J'ai trouvé vos deux choix du jour excellents, Eva.
Il faut que vous regardiez Terra Willi avec votre choupi.
Je vais regarder Terra Willi avec Willy Revelli et Edouard Baird, bien sûr. Merci Eva.
Europe 1.
La sentez-vous, cette vague d'euphorie qui déferle sur la France déconfinée? Oui, même s'il y a encore des restrictions, il faut prendre les choses du bon côté.
Mais gardez donc bien vos distances et ça sera permis.
C'est vrai.
Dites-vous qu'on a de la chance, on est toujours en vie. Ah. Prenez votre mal en patience et vous serez surpris.
Par exemple,
oui,
j'ai rencontré une fille sur Tinder, en la voyant en vrai, je fus étonnée.
Bonne humeur et info feel good, voilà ce qui vous attend dans la deuxième partie de l'équipée sauvage, où vous apprendrez que le masque peut être tendance et qu'il n'y a pas que les connards qui conduisent des Mercedes. C'est une étude finlandaise qui le dit. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe.